L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère, avec toujours en cette 9e saison, un mardi par mois environ, une émission en partenariat avec l'association Les Petits Débrouillards Grand Ouest. Les Petits Débrouillards font de la vulgarisation de la médiation scientifique, médiation des sciences et des techniques. Et le thème de notre série d'émissions cette saison, c'est l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, il sera question de santé et d'environnement. Car non, l'environnement, ce n'est pas seulement la question de la beauté des paysages, des papillons, des petites fleurs qui font joli. C'est une question esthétique, bien sûr, mais la beauté du monde, c'est sûr que c'est important. Ceci dit, c'est aussi et surtout l'environnement, une question de survie de l'espèce humaine. Je pèse mes mots. Bien sûr, le milieu naturel sauvage se dégrade. Ce sera progressif. C'est progressif, car ça a commencé en fait. Mais petit à petit, c'est aussi la santé des humains qui se dégrade. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 10 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde d'un cancer lié à des facteurs environnementaux. Et d'après l'Agence nationale de santé publique en France, 5 à 10% des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux. Facteurs qui sont très nombreux, la qualité de l'air, de l'eau semble évidente, mais il y a aussi bien d'autres, même le bruit par exemple, et ses effets néfastes commencent à être mis en évidence par les scientifiques. Du côté des petits débrouillards, on fabrique des jeux pour faire comprendre les liens entre l'environnement et la santé. Et c'est le cas notamment de Claire Combette, qui est animatrice, médiatrice scientifique de l'antenne de Vannes. Nous l'avons enregistrée il y a quelques jours et elle commence par nous expliquer justement les liens entre santé et environnement.
Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le changement climatique va avoir énormément de des conséquences multiples. Et des conséquences, les conséquences auxquelles on ne va pas toujours penser, vont surtout être liées aussi par rapport à l'endroit où on vit. Globalement, si je prends un exemple simple, si on prend le cas des vagues de chaleur, en plus on arrive bientôt sur l'été, si on prend le cas des vagues de chaleur, si on vit à la campagne ou si on vit en ville, on n'aura pas les mêmes conséquences sur notre santé. Si on vit à la campagne, on s'en sortira normalement de manière pas trop mal, mais si on vit en ville, dans des zones par exemple très urbanisées, on va avoir un phénomène supplémentaire lié aux vagues de chaleur, qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, et qui vont être un vrai danger pour la santé, puisqu'ils vont aggraver la température. Donc en gros, il peut y avoir des différences de 3 à 4 degrés entre la ville et l'extérieur. Donc ça, c'est un exemple d'effet que ça va avoir sur la santé. Après, sinon, c'est aussi des choses auxquelles on a découvert relativement récemment. On s'aperçoit peut-être dans notre entourage qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au pollen ou qui font de la bronchite un peu asthmatique, surtout en ce moment. Et c'est en lien avec le fait que le pollen est naturel, enfin certaines espèces produisent un pollen qui est naturellement allergène, mais avec la pollution va dégrader la membrane du grain de pollen et qui va pénétrer plus profondément dans nos bronches. Ce qui fait qu'en période par exemple de pollen plus pic de pollution, c'est assez catastrophique en termes de santé au niveau des bronches. Et de plus en plus de gens du coup chaque année vont être malades. Voilà, par exemple, deux exemples auxquels on ne pense pas forcément, qui peuvent être en lien effectivement avec le changement climatique et la pollution.
Ah ouais, puis il y a ceux auxquels on peut penser, enfin en tout cas, il y a 5 ans, on y a pensé, comme les virus.
Oui, c'est ça, il y a 5 ans, on y a pensé comme les virus, exactement. Alors, c'est des choses que l'on craint, puisque au fait, entre guillemets, c'est assez compliqué, par exemple, même pour le Covid encore. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble que c'est encore assez compliqué pour le Covid de savoir finalement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais beaucoup de scientifiques craignent effectivement que la fonte, par exemple, du permafrost, donc qui sont des terres gelées tout au nord ou tout au sud du globe, puisse entraîner la libération de virus ou de bactéries que l'on ne connaît pas, ou que l'on ne connaît plus, en tout cas qu'on ne connaît plus depuis des siècles, voire des millénaires, et que notre corps prendrait de plein fouet, comme ça a été le cas, par exemple, pour le Covid.
Et est-ce qu'il y a un avantage à utiliser l'argument santé pour convaincre le grand public que le changement climatique, ce n'est pas rien ?
Oui, ça peut, parce qu'effectivement, mine de rien, on est aussi un peu câblé, notre cerveau est un peu câblé aussi, mine de rien, pour penser d'abord à nous. Alors, ça a été un trait de caractère qui nous a permis de survivre. Mais effectivement, si on dit, ah bah, les animaux, par exemple, on a énormément d'espèces qui disparaissent. On sait qu'il y a des espèces qui disparaissent avant même qu'on ait eu le temps de les étudier. Et donc, c'est vrai que bah, les animaux ou les gens qui habitent loin de nous, etc., c'est quelque chose qui peut paraître assez flou, en tout cas pour le cerveau même, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Alors que si on dit, bah ouais, mais en fait, avec le changement climatique, vous, par exemple, bah voilà, vous vivez en ville, bah, vous ou vos enfants risquent d'être plus touchés, pardon, d'être plus facilement touchés par exemple, des crises d'asthme ou par des allergies, bah tout de suite, c'est plus réel, quoi, c'est plus concret, c'est nous ou c'est nos proches, très proches. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on commence, hein, qu'on met quand on prépare, nous, parce qu'au sein des petits débrouillards, on prépare pas mal de kits ou de réflexions autour d'animation autour de la santé environnement. C'est quelque chose qu'on met dans les guides et conseils aux animateurs animatrices, qui est de dire, bah, ok, c'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose de concret, utiliser l'impact que le changement climatique peut avoir sur la santé, c'est quelque chose de concret, mais attention à ne pas rester non plus que là-dessus, pour pas avoir un discours un peu trop égoïste, tout simplement, dire que bah oui, ok, il y a nous, mais en fait, il y a aussi les autres humains et les autres espèces.
Alors, moyennant quoi, justement, les petits débrouillards ont créé un jeu, une enquête, c'est ça, autour de ce sujet ?
C'est ça, exactement. Il s'agit en fait, alors à la base, j'étais pensé un petit peu comme un escape game avec des différents défis. Chaque défi réussi permettrait d'avoir une ou plusieurs pièces d'un puzzle et assembler en fait ce puzzle présenterait différents moyens d'adaptation au changement climatique vis-à-vis de pour protéger notre santé. L'idée, c'est qu'on aurait d'abord une image, une affiche. En gros, un peu tout va mal. Les gens sont malades, il fait gris, enfin il fait gris parce qu'il y a des nuages de pollution, il fait trop chaud, etc., etc. Et au fur et à mesure des défis, on rajouterait des nouvelles pièces qui permettraient de faire en sorte que le paysage aille mieux. Le principe pour ce jeu, donc Enquête Santé, ce sera en effet de prendre un groupe, donc ça peut être soit une classe, soit un centre de loisirs, soit un groupe même de plus grands, d'adultes, peu importe, de les séparer en 5. Alors après, là, il y a plusieurs méthodes, hein, soit un groupe, chaque groupe fait un défi, et puis ensuite, bah, ils se partagent les informations. Soit chaque groupe fera tous les défis, ça dépend aussi un petit peu du temps qu'on a. Et donc, comme je disais, bah, à la fin de chaque défi, si le défi est réussi, il y a des questions, globalement, pour voir s'ils ont bien compris le principe. Et si le défi est réussi, ils obtiennent donc des pièces de puzzle qui permettent de parler en fait, d'adaptation au changement climatique et d'adaptation au changement climatique du point de vue de la santé. Nous sommes obligés, donc il y a cinq défis. Le premier va plutôt concerner vraiment le principe de l'effet de serre. C'est quoi finalement l'effet de serre ? Parce que bah, mine de rien, c'est vrai qu'on parle beaucoup de gaz à effet de serre. Mais mine de rien, l'effet de serre, on va dire basiquement, hein, nous protège. Sans lui, il ferait moins 18 en moyenne à la surface de la planète. On va aussi s'intéresser à quelque chose dont on commence un petit peu plus à parler au niveau des canicules, qu'on appelle le thermomètre globe mouillé, qui globalement en fait, s'intéresse à la fois à la température et au taux d'humidité. S'apercevoir que bah, quand il fait chaud, par exemple, et sec, bah, le fait de transpirer ou de s'asperger d'eau permet de nous rafraîchir, mais s'il fait chaud et très humide, l'eau ne pourra pas s'évaporer. Donc c'est là où on peut avoir des températures mortelles pour l'être humain très vite, hein, des 31-35 degrés d'après les dernières études, on peut avoir des températures qui sont mortelles. Ensuite, on a un deuxième défi qui va être plutôt sur vraiment, on va dire, l'impact des polluants que va produire les activités humaines, donc plutôt des particules fines et du gaz à effet de serre sur bah, différents milieux. Donc là, on s'est intéressé à l'océan et à l'atmosphère. Celui sur l'atmosphère, il est assez simple. Hein, si on a une petite expérience qui existe depuis longtemps, petit débrouillard, qui est le fait de pouvoir fabriquer un petit nuage dans une bouteille. Ça nécessite de mettre de l'eau chaude dans une bouteille, de vider la bouteille et de l'écraser. C'est par la variation de pression en fait, qu'on va avoir une formation d'un nuage. Et si on fait juste ça, on aura souvent un petit nuage. Et si on rajoute des allumettes, alors des allumettes qu'on a craquées, qu'on a allumées et donc on a éteint, donc on a un petit peu de fumée dans la bouteille, là on va avoir un nuage qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus gris. Donc on peut faire le lien aussi avec les nuages de pollution que l'on peut trouver dans les grandes villes, quelle que soit la saison, quelle que soit la météo. Et qui donc évidemment n'est pas bon pour nos bronches. Et on s'intéresse également avec ces défis, à l'acidification des océans. Donc là, le processus, il est relativement simple en fait, hein, c'est mettre des révélateurs de pH, d'acidité dans l'eau, dont dans l'eau de mer, et de souffler dans l'eau de mer, donc de rajouter du CO2 dans l'eau de mer, et le révélateur va changer de couleur, va passer d'un pH un petit peu basique, qui est le pH naturel de l'eau de mer, à un pH un petit peu acide. On peut faire le lien ensuite avec le fait que les coquillages, ils n'aiment pas trop l'acidité, et que c'est pour ça que l'on parle de plus en plus souvent aussi de blanchiment des coraux, ou que simplement certains crustacés ou certains coquillages ils vont avoir souvent une coquille plus fragile, et donc être plus facilement, par exemple, prédatés. Le troisième défi, bah, justement, est assez en lien avec le deuxième, qui s'intéresse aux conséquences directes que va avoir la pollution sur, en particulier sur nos bronches, en fait. Parce qu'il y a une expérience, en fait, où c'est un petit poumon qu'on a reproduit avec, bah, comme à la méthode petit débrouillard, hein, c'est-à-dire avec une bouteille, des ballons de baudruche, c'est vraiment des choses qu'on peut trouver facilement chez soi. Et si on rajoute ce qu'on va développer quand on fait de l'asthme, hein, une sorte de mucus en fait, qui est apparenté un peu par un mélange entre de la maïzena et de l'eau, eh ben, on va avoir un poumon qui va avoir beaucoup plus de mal à se gonfler. Et le deuxième, bah, c'est beaucoup plus facile à expliquer, c'est un memory qui a été développé par une des volontaires en service civique, des petits débrouillards, un memory sur les pollens. L'idée, c'est d'associer en fait, une plante à son pollen. Alors, comme on n'est pas des spécialistes en palynologie, en étude des pollens, les images des plantes et des pollens sont entourées avec une couleur et un symbole, ce qui permet de faire le lien comme un memory classique. L'intérêt, c'est que ces couleurs, elles ne sont pas dispersées, elles ne sont pas disposées juste pour faire joli. Il y a un code couleur qui va expliquer certaines espèces qui sont très allergènes et d'autres qui ne le sont pas. Dans la plupart des villes, la majorité des plantes, en fait, enfin des villes et des villages un peu petits, la majorité des plantes sont en fait à la base plantées par des particuliers. Et donc, ben, même si la ville peut faire un effort en essayant de ne pas planter des plantes allergènes, ben, y a quand même une part de notre travail qui vient à nous particuliers, qui avons un jardin ou un balcon, de ne pas planter n'importe quoi. Parce que même s'il y a des plantes qui peuvent être très jolies ou par exemple qui peuvent pousser très vite, les cas les plus fréquents, c'est souvent ceux du bouleau ou du cyprès, qui sont, bon, ça c'est plutôt des arbres, hein, mais qui sont très allergènes, et qu'on va planter parce que bah, c'est chouette, quand on a un jardin un peu vide, ça pousse vite, et puis ça fait vite de l'ombre, enfin ça pousse vite. C'est relatif, c'est quand même un arbre, mais ça fait vite de l'ombre. Et en fait, bah, ce sont des plantes qui peuvent embêter fortement les voisins, même si on ne... bien sûr, c'est pas forcément ce qu'on a pensé au départ, mais ça peut avoir un effet important sur la population qui vit autour de notre jardin, par exemple. Le quatrième défi, bah, on a parlé de l'air, maintenant on va parler de l'eau. Donc on va s'intéresser en fait un peu au lien entre l'eau et le sol, et du coup, encore un coup, les activités humaines, les impacts encore un coup, que ça peut avoir sur la santé. Il y a un défi qui est bah, plutôt assez lié, on va dire, à la Bretagne, même si après on peut le... enfin, en tout cas au milieu littoraux, c'est d'avoir plusieurs bacs avec du sable. Les bacs sont légèrement penchés et dans un bac, on a mis juste du sable et dans un autre bac, on a mis des petits morceaux de cure-dents, des choses comme ça qui peuvent représenter des plantes. Et ensuite, on va faire tomber de l'eau, en mode arrosoir, un peu comme si tombait de la pluie, et regarder si le sable, il tient bien dans les deux bacs ou s'il y en a un qui s'écroule plus facilement que l'autre. Et on s'aperçoit qu'on fait vite, hein, quand on fait ça correctement, c'est-à-dire qu'on verse la même quantité d'eau, à peu près la même force dans les deux bacs, on s'aperçoit qu'il y en a un qui va, enfin le bac où il n'y a rien, va partir beaucoup plus vite, et tandis que celui qui a des petits pics, va, le sable va rester un peu plus. Ça représente, ces petits pics en fait représentent des plantes que l'on peut avoir justement sur les dunes, si on prend l'exemple encore un coup du littoral, et permet d'expliquer que ben oui, si on y a des endroits, par exemple, si on met une protection dans certains endroits sur les dunes pour ne pas marcher à certains endroits sur la dune, c'est pas pour embêter les gens, c'est que ben, effectivement, à force de marcher toujours au même endroit, on dégrade la végétation, on l'empêche de repousser. Et ça peut effectivement affaiblir la dune. Alors, si on n'habite pas derrière la dune, on ne va pas se sentir très concerné. Mais pour les gens qui ne sont pas très loin, qui habitent derrière la dune, c'est une formidable digue à la submersion marine, aux tempêtes, si on enlève, qui est une protection en moins. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à essayer de garder nos dunes. Et on peut avoir à peu près le même discours pour les gens, par exemple, qui vivent proche des rivières. Si on abîme trop les rives, les rives font quand même un très bon tampon, très bonne éponge, en fait, lorsque la rivière sort du lit en cas d'inondation. Et si on détruit ces éponges-là, entre guillemets, ce sera une zone qui sera beaucoup plus facile, entre guillemets, pour l'eau à passer et donc à atteindre plus facilement les maisons. Quand on sait qu'on va, avec le changement climatique, avoir des inondations de plus en plus fréquentes, surtout partout en France, c'est un quart de la population en France est à risque inondation, que ce soit lié à la montée de la mer ou aux inondations liées aux rivières et aux fleuves, c'est des choses auxquelles on peut faire attention, parce que ça nous concerne directement, nous, et puis la maison dans laquelle on vit. Et puis, on a une deuxième expérience qui est un classique, un peu des petits débrouillards, qui est de s'intéresser en fait à la pollution vraiment de l'eau, à celle qu'on voit et à celle qui est cachée, et à comment essayer d'éliminer cette pollution de l'eau. Donc, on a plusieurs types d'éléments filtrants naturels, du sable, de la terre, etc., des graviers. Et on va mettre une eau qu'on a volontairement salie, hein, avec de la terre, des petits bouts de plastique, etc., voir quelle éléments, si les éléments naturels peuvent filtrer, s'il y en a qui filtrent mieux que d'autres. Et le petit twist, en fait, c'est surtout pour les plus jeunes, c'est qu'en fait, dans cette eau, elle n'est pas, elle a caché un polluant. Alors, nous, c'est une expérience qu'on utilise beaucoup au pied des brouillards, c'est qu'on met de l'encre, si vous voulez refaire ça chez vous, c'est si on met de l'encre effaçable dans de l'eau, la couleur va disparaître. C'est une réaction acide-base. Et si on met du vinaigre, la couleur réapparaît. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait filtrer cette eau sale par différents éléments naturels, par les groupes. Et une fois qu'on est, nous, qui est à peu près propre, on dit, bon, bah, vous pensez qu'elle est propre? Bah oui, on pense. Et pouf, on met du vinaigre. Et en fait, l'eau retourne bleue, devient bleue. Ça permet d'expliquer qu'il y a effectivement des polluants qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on prélève, on est obligé de faire tout un tas de tests pour vérifier si l'eau est potable. C'est pour ça que des fois, et malheureusement aussi, c'est de plus en plus souvent, on va avoir dans des villes des alertes où l'eau reste propre, mais n'est plus potable. On est obligé de prendre de l'eau en bouteille. Et ça permet un petit peu voilà, de discuter sur tous ces aspects-là de la consommation d'eau et du risque pollution de l'eau dans le monde. Et le dernier défi, là, on parle un petit peu de nourriture. Parce que quand même, voilà, c'est quand même aussi important. En fait, on va s'intéresser aux choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais à l'importance que certains aliments ou que certains éléments que l'on peut consommer a pour nous. Là, on va vraiment plus faire le lien entre l'effondrement de la biodiversité, qui est un fait, hein, et le fait que bah, ça va nous impacter. Souvent, quand on peut entendre, alors c'est vrai que c'est plutôt chez les enfants, chez les petits-enfants, mais des fois, je l'entends aussi de par des adultes qui disent « bon, bah, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est finalement pas si catastrophique que ça s'il y a moins de pollinisateurs, parce que on arrivera toujours à trouver à manger, mais en fait il y a des aliments, par exemple ne serait-ce que pour les pollinisateurs, qui sont très protecteurs pour nous. On entend déjà parler des antioxydants, on a une expérience qui est justement là-dessus, où on va mettre des petits morceaux de fruits, genre pommes, poires par exemple, à l'extérieur, à l'air libre, on a une assiette qui est un peu témoin. Il y en a un qu'on va on va les mettre dans une petite cuvette remplie d'eau, et l'autre dans une petite cuvette remplie de citron. Et on va attendre, celui qui est à l'air libre va très vite, les fruits vont très vite s'abîmer, ils vont s'oxyder, parce que l'oxygène, c'est très bien, hein, c'est très pratique pour nous, c'est indispensable, l'oxygène c'est indispensable à notre vie sur Terre, mais c'est aussi, ça attaque, c'est aussi un peu oxydant. Donc si on laisse effectivement des fruits à l'air libre, ils vont se prendre justement cette oxydation, donc ils vont s'abîmer. Dans l'eau, l'eau va un petit peu la protéger, mais au bout d'un moment, ils seront abîmés aussi. Le jus de citron, lui, c'est pas tellement le jus de citron lui-même, mais c'est les vitamines qu'il possède, va avoir une petite particularité de pouvoir créer une sorte de bouclier, on va dire, qui va protéger ces aliments de l'oxydation. Et là, on peut faire le lien avec simplement, si vous faites une tarte aux pommes, vous mettez des fois du jus de citron pour pas que ça s'abîme. Mais c'est aussi l'importance pour nous de manger de prendre des antioxydants, donc on trouve dans pas mal de vitamines, puisque ça permet aussi de nous protéger contre l'oxydation. À la fois de protéger les aliments contre l'oxydation le temps qu'ils arrivent dans notre intestin et qu'ils se transforment en nutriments, s'ils sont dégradés avant, ils vont être moins efficaces, donc on va être moins en forme, et aussi sur le fait que c'est se protéger de l'oxydation liée à ce qu'on peut trouver dans l'air. Et le deuxième, c'est plus, alors lui pour le coup, il est plus intéressant, un deuxième petit défi pour terminer, il est plus intéressant pour les enfants, parce qu'en général les adultes, on s'en rend quand même compte, c'est le fait de simplement de parler de tous les champignons, levures, micro-organismes qui nous servent pour faire à manger. Donc là, on a une petite expérience avec, on peut faire gonfler en fait un ballon, en mettant dans une bouteille de la levure, du sucre et de l'eau tiède, en mettant un petit ballon au-dessus accroché au goulot, au bout d'un moment, la levure va faire de la mousse, quoi. En gros, va lever et donc va faire du gaz qui va permettre de faire lever, enfin de gonfler le ballon, pardon. Permettre de faire, expliquer qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a en fait des organismes vivants à l'intérieur qui ont consommé le sucre et en consommant le sucre, elles ont produit un certain gaz. Et ça, c'est, encore un coup, c'est plus pour les plus jeunes, mais pour expliquer aussi l'importance des organismes qu'on ne voit pas forcément. Et de la même manière qu'on a des espèces, macro, visibles qui disparaissent, on sait qu'il y a des déséquilibres en termes de, on parlait tout à l'heure de bactéries pathogènes, mais même sans forcément s'intéresser aux pathogènes, on voit qu'il y a des déséquilibres au sein des micro-organismes qui peuvent effectivement avoir un impact sur notre santé.
Voilà, des jeux, des défis créés donc par les petits débrouillards du Grand Ouest. Voilà, en l'occurrence, ceux de Vannes, puisque c'était Claire Combette qui est animatrice, médiatrice scientifique pour cette association pour l'antenne de Vannes. Cette émission est à réécouter sur le site internet de Transistor avec les autres émissions que nous avons réalisées avec les petits débrouillards autour de l'adaptation au changement climatique. Et il en reste une d'émission pour la saison, en tout cas, ce sera le 17 juin.